Nous allons parler de botanique, de jardinage, avec vous Alexandre Petz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du rayon, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais jardinage, produits d'entretien de jardinage, enfin produits de jardinage.
Voilà, en fait je m'occupe de tout ce qui est produits de jardin, donc semences, outillages, produits de traitement pour les plantes principalement et un peu de poterie.
Dans un magasin botanique.
Voilà, tout à fait.
Vous êtes venu avec votre fan club en plus.
Voilà, tout à fait.
Nous saluons le fan club. Et nous sommes en compagnie de Stéphanie Jaroux de féminin-bio.com. Rebonjour Stéphanie.
Rebonjour pour la dernière émission.
Et c'est la dernière émission, voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 18h.
Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors merci de venir effectivement pour la dernière émission. On va parler jardinage. On est en pleine saison de printemps, donc c'est le moment de se mettre au jardin. Alors vous êtes responsable effectivement produits entretien jardinage dans les magasins botaniques. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette enseigne, est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler le concept des magasins botaniques ? Alors je crois qu'il y en a 60 en France, c'est ça ?
Tout à fait. Donc répartis principalement pour l'instant dans l'est de la France. Parce que le groupe botanique est originaire de Haute-Savoie, dont le siège est installé à Archamps, à côté de Genève. Donc cette entreprise s'est développée à partir de 1995, principalement dans l'Est, et se développe progressivement dans l'Ouest. Donc pour l'instant, 60 magasins et probablement des projets futurs dans les prochaines années.
Alors, botanique, c'est un magasin de jardinage au sens large.
Oui.
Qu'est-ce qui vous différencie en fait d'un jardinant, pour ne pas citer vos concurrents ?
Oui, alors en fait, notre principale différence va s'axer sur du jardinage écologique, puisqu'on a retiré il y a 3 ans à peu près maintenant tous les pesticides d'origine chimique en fait, de la vente. Donc pour nous diriger principalement sur des solutions d'origine naturelle. Et c'est surtout la grande révolution qu'il y a eu il y a 1 ou 2 ans, c'est l'intégration d'une partie alimentaire dans nos magasins.
D'accord, donc on peut à la fois trouver des produits de jardinage, alors ça
voilà.
Va des semences à des produits d'engrais verts, et on peut aussi également faire ses courses.
Vous pouvez faire vos courses.
Pour la cuisine.
Voilà, de la graine, on va dire, à l'assiette.
C'est ça, tout à fait.
Alors pour bien comprendre de quoi on parle, on a un petit extrait, justement, une vidéo sur Botanique TV. Par exemple, sur du purin d'ortie, alors j'imagine que vous en vendez aussi dans vos magasins.
Bien sûr, ouais, c'est déjà prêt, on va dire, à utiliser.
Alors, qu'est-ce que c'est que le purin d'ortie ? On écoute tout de suite.
Pascal, qu'est-ce que tu vas faire avec ces belles plantes ?
Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on réalise un extrait fermenté de végétaux, qu'on a l'habitude de parler en termes de jardinage, de purin. Donc, purin d'ortie ou purin de consoude.
Qu'est-ce que c'est un purin ?
En fait, un purin, c'est tout simple. C'est une fermentation naturelle dans de l'eau de feuilles de végétaux. Il faut savoir que ces deux plantes ont des principes actifs qui sont élémentaires pour le jardin. Le premier principe, c'est qu'elles vont favoriser la croissance des plantes. On va apporter des éléments minéraux de manière naturelle. Le second principe, c'est qu'elles vont renforcer les défenses immunitaires des plantes. Donc renforcer les défenses immunitaires vis-à-vis des maladies, mais aussi vis-à-vis des insectes.
Alors voilà, une petite illustration sonore extraite d'une vidéo de Botanique TV. Donc, vous pouvez nous dire un petit peu quels sont ces différents produits naturels que vous vendez ?
En fait, ce sont des macérations d'ortie qui sont faites dans de l'eau pendant un certain laps de temps. C'est une sorte de décoction, en fait, qui sont à remélanger dans l'eau. Et donc, vous pouvez soit les vaporiser sur le végétal directement en début d'année, ou soit le préparer en arrosoir, le mélanger l'arroser directement au niveau du sol.
C'est aussi efficace qu'un engrais.
En fait, c'est un stimulateur de croissance.
D'accord.
Donc c'est très efficace, surtout en cette saison-là, sortie d'hiver, rentrée de printemps, où là la plante a besoin d'être aidée pour rebourgeonner, refaire de la feuille.
Alors au niveau de l'efficacité, c'est aussi efficace que ce qu'on vend comme produit chimique.
Tout à fait, c'est tout aussi efficace, c'est utilisé depuis déjà plusieurs siècles. Donc si on l'utilise encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Quoi. Après, vous n'avez pas forcément que le purin d'ortie, vous avez aussi par exemple le purin de prêle, parce que l'ortie c'est le plus connu, mais vous en avez d'autres derrière qui jouent un rôle très important. Pardon. C'est par exemple le purin de prêle qui est actif principalement sur l'apparition des maladies. Donc la prêle joue un rôle biologique très important sur l'apparition des maladies.
Est-ce que vous avez d'autres solutions de boosters, puisqu'en fait le purin d'ortie ou le purin de prêle sont des boosters qui permettent à la plante de s'épanouir de façon peut-être plus rapide aussi. Est-ce qu'il y a d'autres idées qu'on peut donner aux auditeurs?
Après, la solution la plus simple en fait pour une plante soit en bonne santé, c'est tout simplement une très bonne préparation du sol. Donc déjà, rien qu'à l'automne, déjà, ou même en début de printemps, bien préparer son sol, c'est-à-dire mélanger, faire les bons dosages en compost avec son sol, permet déjà à la plante de récupérer tous les éléments minéraux qu'il lui faut pour vraiment faire du bourgeon et vraiment redémarrer en beauté, quoi.
Alors justement, nous sommes au printemps, on se remet à jardiner. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'on fait au printemps? On sème le gazon? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Alors à cette époque-là, déjà vous pouvez préparer, déjà normalement on aurait dû le faire depuis un moment, c'est préparer ses semis. Déjà sous serre, ça, vous pouvez le préparer dès le mois de mi-février jusqu'à maintenant, le faire déjà sous serre de manière à avoir des plants assez hauts pour pouvoir les repiquer dès maintenant au jardin.
On fait pousser les semis un peu en amont, donc pendant l'hiver.
Voilà, pendant la période, fin d'hiver, on va dire, à partir de la mi-février, voilà, sous serre, pas forcément chauffée la serre, mais vous pouvez l'exposer plein soleil. Normalement, la serre, il fait assez chaud à l'intérieur pour que le semis puisse lever et pour qu'on puisse repiquer dès maintenant des plants déjà levés. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que je parlais de semer le gazon, c'est la bonne période pour le faire?
À partir de maintenant, ça va être le bon moment. Il faut qu'il fasse quand même une certaine température la nuit dehors pour qu'il puisse lever efficacement.
Et qu'est-ce qu'on plante?
Après, en termes de plantation, oui. C'est les toutes premières plantations, mais vous pouvez déjà faire vos plantations de curcubitacées, etc. Alors, l'idéal, c'est d'attendre encore un petit peu qu'il fasse un tout petit peu plus chaud, mais là, vous pouvez commencer à y penser. Alors, tout ce qui est culture de salade, tout ce qui est potager, vous pouvez le faire dès maintenant.
C'est vrai qu'on a eu un hiver plutôt rude, plutôt long, oui. Aussi. Est-ce que ça a des conséquences, effectivement, sur la plantation, sur l'entretien des sols?
Alors, le sol, lui, pas forcément. C'est-à-dire que le sol, il faut simplement vérifier sa consistance, s'il a besoin d'être renouvelé en termes de matière organique, donc s'il faut réapporter du compost ou d'autres solutions pour le réenrichir. Mais sinon, non, il n'y a pas de précaution particulière. Après, l'idéal, c'est quand maintenant, les gens ont l'habitude depuis 2 ans d'avoir des hivers un peu rudes. Donc l'idéal, en fait, dès l'automne, c'est de pailler en surface pour éviter que la terre ne gèle en surface.
Alors, pailler, c'est un terme peut-être un petit peu complexe.
On va préciser ça, oui.
En fait, c'est le fait de recouvrir le sol, enfin la terre, avec soit du pays de champ, soit de l'écorce de pin, soit de la plaquette de chêne. Sur entre 5 et 10 cm de manière à que le sol ne soit pas nu.
En fait, c'est lui mettre une petite couverture, c'est ça l'idée?
Une couverture, comme nous on met une veste l'hiver, un blouson, mais c'est pareil pour le sol. Et ça évite justement aux racines d'être fragilisées par le gel l'hiver.
Et donc après, on enlève ce paillage ou comment ça se passe?
Garder, parce qu'en fait, le paillage a des vertus, certes l'hiver, mais on a aussi principalement l'été. Et même toute l'année, puisque la plupart des paillages évitent la levée des mauvaises herbes. Donc évite le traitement via des produits de synthèse que vous connaissez très bien pour désherber et protège le sol l'été du dessèchement.
Donc
c'est-à-dire qu'en
effet.
Fait, ça a un voire triple effet.
Triple effet avec le
puisqu'en fait l'été, ça évite au sol à l'eau contenue dans le sol, de s'évaporer trop rapidement.
Donc ça permet.
C'est un effet vraiment bénéfique. C'est ce que font déjà les forêts à l'état naturel. Les feuilles tombent, font une couche de feuilles en surface. Et puis, ça protège un peu le sol de cette façon-là.
Donc, ça permet de réduire l'arrosage aussi, finalement. Ça répond aussi à
Ça répond à la question d'économie d'eau.
Exactement.
C'est très important.
On est sur le salon Planète Durable. Donc, effectivement, on est dans de l'éco-consommation et dans de l'écologie.
On parle d'or bleu, mais là, c'est important de pouvoir faire ce genre de choses.
Alors, on imagine qu'il faut aussi préparer le terrain, le nourrir. Comment on peut faire pour le régénérer un peu en cette période après l'hiver, après les froids? Qu'est-ce qu'on peut mettre pour...
L'idéal, j'y reviens encore, c'est le compost, tout simplement. Donc suivant les plantations, le compost, on en met plus ou moins. Hein, pour du gazon, vous pouvez mettre jusqu'à 1 ou 2 kg mètre carré de compost, bien mélangé avec la terre, de manière à favoriser son enracinement et puis ça a une bonne levée.
Donc le compost, c'est toutes les matières organiques, les déchets
organiques qu'on pourrait récupérer largement dans nos poubelles, d'ailleurs, parce que faut savoir qu'on a un tiers de nos poubelles sont des matières recyclables tout de suite par nos soins et très facilement. Bon, et donc ces matières-là, effectivement, remélangées avec pourquoi pas des déchets du jardin. Et suivant un processus qui n'est pas très compliqué à réaliser, c'est un composteur, même en tas, ça peut se faire de manière très facile. cette matière décomposée nourrit toute seule. En fait, ça régénère la qualité, la biodiversité, la biologie du sol. La plante en a besoin pour sa croissance.
Alors ça, on imagine bien à la campagne ou si on a un jardin, si on a de la place pour voilà, mettre son compost, de ses déchets organiques de côté. Si on est dans un appartement et puis qu'on a quand même envie de trier ses déchets, comment on fait?
Alors en fait, en appartement, si vous êtes possesseur plutôt d'un appartement avec balcon, parce que c'est vrai que sans balcon, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué, oui.
Il existe le système du lombricomposteur, où en fait c'est un composteur plus petit qu'un. Ça fait à peu près 50 cm², avec des tiroirs, différents types de niveaux de tiroirs, où à l'intérieur vous pouvez organiser votre recyclage. Par contre, il faut acheter les verres séparément. C'est des verres de Californie qui sont à commander, qui sont livrés généralement directement chez vous. Vous faites d'abord votre premier apport de matière organique, donc non décomposée, puisque ce n'est pas encore. Vous faites votre apport de verre et d'ici 2-3 mois, en théorie, si le tout fonctionne bien, on va dire, vous avez votre apport pour vos plantes.
Donc il faut aimer les petites bébêtes,
recyclage.
Quoi, pour le compostage.
C'est un élément
que
vous mettez sur votre balcon.
D'accord.
Donc, les vers, après...
Ils sont inoffensifs, ces vers?
Oui, ils n'attaquent pas à la gorge.
Bon, ça va alors. Alors justement, on parle du balcon, c'est une bonne idée pour les gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de jardin, mais qui veulent quand même, malgré tout, faire venir la nature chez eux, faire venir la biodiversité. Qu'est-ce que vous conseillez au printemps? Qu'est-ce qu'on peut mettre au balcon, que ce soit des aromates ou des plantes?
Alors déjà, sur le balcon, que ce soit vous soyez sur le balcon ou au jardin, vous pouvez semer déjà tout ce qui est jachère fleurie, pour faire venir déjà tout ce qui est pollinisateur. Donc, généralement, c'est des mélanges de diverses variétés de végétaux qui sont déjà pré-mélangés pour vous permettre de faire venir tout ce qui est coccinelles, papillons, abeilles, etc. Donc ça peut se faire aussi bien en balconnière qu'en jardin classique. Et après, effectivement, vous avez tout ce qui est plantation, donc du moment, tout ce qui est aromatique, lavande, romarin, thym. Là, vous avez les premiers œillets, les premiers géraniums aussi. Vous pouvez faire du géranium dès maintenant, il n'y a pas de souci.
C'est possible de jardiner sans avoir beaucoup d'espace? Combien de surface il faut et de volume de terre pour minimum pour pouvoir
Par exemple, pour réaliser un potager bio, vous pouvez faire ça sur simplement 1 m².
1 m², ça suffit.
Ouais, il existe des systèmes de petits potagers par exemple. C'est des structures soit en osier, soit en douglas. Donc nous, on en a en douglas, en plus des produits non traités. Savoir qu'ils n'ont sur aucun traitement, c'est du bois brut. Donc le douglas, c'est un bois assez dur. Il se décompose très lentement. Donc au bout de quelques années, forcément, dans 20 ans, vous ne l'aurez peut-être plus, mais là, c'est pour faire quelques années, c'est très bien. Donc vous remplissez de terre, ça équivaut quoi, à 200 litres de terre à peu près. Donc ça correspond à 5-6 sacs de terreau. Et à l'intérieur, vous pouvez faire planter, pourquoi vous pouvez planter votre petit potager, tomates cerises, pourquoi pas faire des petits radis cracou ou radis de 18 jours, et faire puis faire vos laitues et mélanger avec des petits œillets d'Inde, etc. Faire un peu de fleurier et mélanger le tout avec. C'est assez rigolo pour les enfants, notamment.
C'est ce que j'allais vous dire. En fait, les gens qui viennent vous voir chez Botanique, comment vous les conseillez? Qu'est-ce qu'ils vous le demandent? Ce sont des gens qui sont en attente de jardiner, de se trouver une occupation, ou ce sont plutôt des gens qui se disent « Tiens, je vais maîtriser ce que je consomme, je vais faire moi-même mes petites tomates cerises, mes aromates, pour être au moins sûr qu'effectivement, il n'y ait pas de pesticides ou pas de choses chimiques ?»
Bon, on a un petit peu les deux types de clients, on va dire. On a à la fois la personne qui a simplement envie de se faire plaisir, avoir quelques fleurs sur son balcon pour faire de la déco, on va dire. Et puis la personne, effectivement, qui s'intéresse vraiment à ce qu'elle mange et qui a envie de produire produire quelques petites tomates cerises bio, voire même sur le balcon, vous pouvez faire de la tomate classique d'origine bio. Ils viennent principalement chez nous parce qu'on a tous les éléments qu'on va vous vendre potager, donc tout ce qui est plants, etc., sont d'origine AB. On n'a pas de...
Donc agriculture biologique.
Agriculture biologique.
C'est une volonté depuis le début de la création de Botanique,
voilà,
de proposer des produits...
Botanique un peu sur la philosophie écolo depuis l'origine, on va dire. Et c'est surtout depuis 2007, qu'on est vraiment sur cette ligne de développement durable pur et sur le fait de vendre uniquement des solutions, des variétés d'origine AB. Qui garantissent quand même aux consommateurs C'est non modifié génétiquement déjà pour commencer, et puis c'est un produit qui est sain dès l'origine, c'est un plant qui est sain dès l'origine.
Alors vous conseillez les clients qui viennent vous voir dans vos magasins, est-ce que vous intervenez aussi chez les particuliers pour mettre en place par exemple un petit potager ou pour leur donner des conseils? Ça c'est aussi une des interventions, un des
ça,
services
fait,
de botanique?
Non, ça on fait pas par contre, mais bon on le fait directement en magasin. On leur explique directement en magasin. Moi, j'ai un carré potager qui est déjà monté sur le magasin. Donc après, c'est très facile au consommateur de reproduire ce qui est fait sur le magasin.
Est-ce que le choix de la terre, du terreau, est important également dans la plantation? Vous conseillez également ce type de produit?
En fait, le choix du terreau est déterminant pour la croissance même de la plante, comme on essaye de conseiller un maximum nos clients sur... On essaie de réfléchir par rapport à leur orientation de balcon. Par exemple, si c'est un balcon plein soleil, on va effectivement pas leur conseiller des végétaux qui poussent à l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même logique. Et après, suivant le type de plantation, si c'est un végétal style érable du Japon, on va lui conseiller de la terre de bruyère. Parce que c'est des végétaux qui poussent dans une terre très acide, voire acide. Et au contraire, des végétaux qui demandent plutôt des... Le géranium, vous pouvez très bien le planter dans du terreau, soit géranium, certes, ou soit dans du terreau universel.
Alors, nous sommes dans des préoccupations environnementales, d'économie d'eau. Est-ce qu'il y a des plantes qui nécessitent peu d'eau?
Alors oui, bien sûr, vous avez des végétaux comme les ficoïdes, les dipladenia et le géranium aussi sont très peu consommateurs d'eau.
Quand vous dites très peu consommateurs d'eau, ça veut dire quoi? C'est une fois par semaine?
Après, ça peut dépendre de leur lieu de plantation. Donc, si c'est en pleine terre ou si c'est en balconnière, la plante n'aura pas forcément la même réaction. Parce qu'un pot en plastique placé en plein soleil va faire que la matière étant déjà va faire que la terre va chauffer beaucoup plus rapidement et donc l'eau va s'évaporer forcément beaucoup plus rapidement. Tandis qu'un géranium planté en pleine terre va beaucoup moins souffrir. Donc après on réadapte après son consommateur, on va dire, de réadapter le style de enfin le niveau d'arrosage, on va dire ça comme ça.
Alors, pour lutter contre les désagréments du type limace, on en parlait avec Grégory, qui a une astuce. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une astuce que vous allez légitimer, mais pour lutter contre les pucerons, contre les limaces, contre ces petites bébêtes qui nous embêtent un petit peu, qu'est-ce que vous préconisez?
Pour la limace, vous pouvez opter pour l'option hérisson, mais c'est pas évident.
Alors comment ça marche? On plante les limaces sur le hérisson?
Voilà, tout à fait. Généralement, c'est plutôt lui qui vient les planter, on va dire ça comme ça, parce qu'il est très consommateur de hérisson. Après, vous avez des solutions les classiques, même en agriculture biologique, vous pouvez utiliser les petits granulés bleus anti-limaces, puisque c'est du fer à molle, donc c'est une base ferrique, donc ça, vous pouvez l'utiliser en agriculture biologique, c'est très peu polluant. Après, d'autres solutions, il y en
non,
a
moi j'avais,
plein,
j'avais mais... vu des petits livres, des astuces avec du sel, avec de la cendre.
Oui, vous avez la bière aussi qui marche très bien
la
pour
bière.
Les amateurs. Ouais.
Ah, c'est
dans
bon,
un
ça
petit
va.
Bol protégé, bien sûr, de la pluie, pour pas que l'eau se mélange avec la bière. La limace est fan, en fait, de bière.
Quoi, hein. Pourquoi elle est belge?
Nous ne sommes pas les seuls.
Et du coup, elle meurt de coma éthylique
Elle meurt de coma éthylique ou... Oui, de toute façon, c'est ça.
Et les pucerons, qu'est-ce que vous préconisez comme solution?
Vous avez l'éternel l'arbre de coccinelle, qui est utilisé déjà depuis plusieurs années par l'amateur de jardinage écolo, on va dire. Et vous avez aussi la chrysope, qui est même plus efficace, je dirais, que la coccinelle, puisque la larve de chrysope va manger beaucoup plus de pucerons et va même s'attaquer aux acariens et même aux cochenilles. Donc, ils sont d'autres parasites qui sont très embêtants dans le jardin.
On parle de marc de café. Alors, je ne sais plus pour quelle utilisation. Est-ce que c'est aussi pour les pucerons de rosier ou
Ça fonctionne un petit peu. C'est un côté un peu répulsif sur les pucerons. Et la marc de café, en se décomposant, améliore un peu la qualité du sol. Mais des solutions, il y en a plein.
D'accord. On parle aussi de sachets de thé.
Oui, c'est un peu dans le même esprit.
Il faut enlever le thé du sachet ou on peut mettre le sachet?
Pour enlever le thé du sachet. Ouais.
Ah, c'est vraiment des questions de
après, ça dépend si le film, il est... généralement, maintenant, c'est dégradable assez rapidement.
Alors, nous ne sommes pas avec Nicolas le jardinier. Je tiens à le préciser. Non, c'est Alexandre Pett.
De botanique.
De botanique, qui nous donne tous ses conseils. Dans les magasins botaniques, qui sont les clients qui viennent? C'est des gens qui sont déjà avisés, qui sont en recherche d'une agriculture un peu plus naturelle?
Alors, on a tout type de clients. On a du débutant jusqu'à la personne de plus de 50 ans qui jardine depuis déjà une trentaine d'années. Donc, après, on essaye de s'adapter à chacun. Donc, voilà.
Et alors, vous avez noté un changement dans la fréquentation?
Est-ce que alors, malheureusement, les plus anciens sont les plus difficiles à convaincre, parce qu'ils ont leurs petites habitudes et ils ont du mal à déroger à leurs propres règles. Après, les plus jeunes, les jeunes jardiniers sont les plus faciles à convaincre, notamment sur la non-utilisation des pesticides, etc.
Est-ce que le jardinage est, comme la cuisine, une activité de loisir assez plébiscitée par les Français? Est-ce que c'est quelque chose qui les amuse?
En période de crise, bien sûr, à défaut de partir en vacances très loin, on préfère revenir sur le près de chez soi. Donc maintenant, le jardin, le balcon ou le jardin, on s'est aperçu que c'était devenu une véritable pièce à vivre. C'est à la fois une pièce de détente et une pièce, on va dire, éducative, notamment pour les enfants. On leur apprend à jardiner, ça permet de partager un moment convivial et de détente.
Est-ce que vous avez remarqué effectivement un intérêt chez les enfants, chez les adolescents, à s'approprier la terre, l'histoire des plantes, des fruits, des légumes? Je sais que dans les écoles, de plus en plus d'écoles d'ailleurs ont leur propre potager. Ma petite fille, elle fait son potager avec sa maîtresse. C'est aussi des préoccupations éducatives?
Bien sûr.
Vous avez des écoles qui vous demandent d'intervenir?
Oui, on a même participé il y a une quinzaine de jours à peu près, il me semble, à la semaine du jardinage pour les écoles. Donc on a eu 3-4 classes, je crois, qui sont venues à peu près sur toute la semaine pour justement apprendre à jardiner de manière de plus chez nous, de manière écologique.
Il y a des questions d'enfants qui sont amusantes, qui vous ont fait sourire?
Alors, je n'ai pas participé personnellement à cette aventure-là, parce que moi, je fais des animations adultes, on va dire. Mais je pense qu'il y a dû y avoir des questions très, très intéressantes, ouais. Notamment sur les pucerons, etc.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a à cœur de remettre la biodiversité à l'honneur. Et c'est aussi le jardinage, une façon de faire venir la vie, les papillons, les petits insectes qui sont fort utiles. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut découvrir dans vos magasins?
Alors sur le magasin, on a une terrasse en fait qui se situe au sommet du magasin. On a installé 5 ruches, donc 5 ruches qui sont d'ailleurs assez productives, parce qu'on a réussi à avoir pas mal de miel. Et donc, la preuve que sur Paris, on peut faire pas mal de choses, même en milieu très urbain.
Oui, et vous produisez votre propre miel.
Voilà, tout à fait.
Et vous le vendez après ou?
Non. Ah. C'est un peu plus compliqué, ce genre de choses.
Oui, je rappelle que vous êtes dans le magasin botanique de Suresnes, donc en pleine région parisienne.
Tout à fait.
Très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette intervention.
Merci Alexandre Pett, oui, de nous avoir éclairé, donné tous ces conseils à l'entrée du printemps. On peut on peut commencer à jardiner dès maintenant, à préparer notre terre, notre sol. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Jaroux d'avoir mené cet entretien. Vous m'aviez dit que vous vouliez pousser la chansonnette, mais j'ai peur qu'on ait un peu, on n'ait pas assez de temps.
Non, je vais manquer de voix. Je vous remercie beaucoup. Je remercie de nouveau l'équipe Fréquence Terre, mes amis de C'est Durable et Marcel Green, avec qui j'ai partagé l'antenne. Et pour ma part, je retrouve les internautes dès demain sur féminin-bio.com. Merci beaucoup. Voilà. Excellent week-end à tous.
On vous remercie Stéphanie Jaroux. On remercie féminin-bio.com de nous avoir accueillis. C'est la fin de cette antenne en direct du salon Planète Durable. Le salon continue encore pendant une petite heure.
Merci Grégory d'avoir apporté un terme. Je vais terminer avec les remerciements. Nous allons dérouler le générique de fin avec d'abord des remerciements qui vont vers Yvan Lacroix, qui est le commissaire du salon. Nous le recevions tout à l'heure sur ce plateau. Il nous a fait quelques faveurs pour que nous puissions exprimer pleinement les attentes de Fréquence Terre sur le salon Planète Durable. Il nous a offert par exemple la connexion internet qui nous permet d'être écoutés sur RPL, sur Radio Lycée Montessoro et sur internet un peu partout. Je remercie aussi Créacast, qui est notre fournisseur de streaming, qui soutient notre action de web radio depuis ses débuts, et sans aucune contrepartie, il nous a fourni son expertise pour que nous puissions émettre, en tous les cas en direct, du Salon Planète Durable pendant ces 4 jours. Je remercie aussi notre équipe technique, à commencer par Christophe Papon. Il est absent aujourd'hui, il est technicien à France Info et c'est lui qui s'est improvisé directeur technique pour mettre en place tout le matériel que vous voyez sur ce salon. Merci à lui, merci à Raphaël Rasson de France Info qui a assuré la technique pendant le premier jour, qui a donc essuyé les plâtres, et à Guillaume Ploquin qui est notre réalisateur samedi, dimanche. Il travaille à RFI. Il était avec nous et lui aussi, sans contrepartie, Nicolas Sénac, qui signe l'habillage de Fréquence Terre pendant tout le salon, qui nous a permis de rythmer nos interventions. Merci à Anne-Laurence Mazin, qui s'est déplacée depuis Grenoble pour venir présenter les journaux vendredi. À Marcel Green, à Cyril Souche et David Nolin de Cédurable.info, à Anne Guéquière, à l'équipe de Féminin Bio, toute l'équipe qui s'est mobilisée, même celle qu'on ne voit pas, qui n'est pas intervenue sur les micros. Et puis merci à mon compagnon de route pendant ces 4 jours, Grégory Lesca, qui lui aussi s'est dépensé sans compter, parce qu'après les salons, il y a tous les podcasts à préparer et on n'est pas couché en général de très bonne heure. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver Fréquence Terre toute l'année sur le site fréquenceterre.com avec de nombreuses chroniques et toute notre équipe qui n'a pas pu forcément se déplacer cette fois-ci. Je remercie Roger Linal, le directeur de Radio Lycée Montessoro, qui a bien voulu retransmettre ses émissions sur des créneaux d'heure assez importants. À Roger Perquin aussi, le directeur de Radio RPL, qui émet sur la zone Est, Metz, Thionville. Et puis merci à vous, les auditeurs, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Nous espérons que Fréquence Terre aura été utile pour appréhender le monde meilleur que nous essayons de préparer. J'espère que vous aurez, vous aussi, constaté la variété et l'optimisme de tous les propos. Je vous souhaite donc une très bonne fin de soirée. Je vous rends l'antenne à tous. Et on se retrouvera très vraisemblablement sur l'invitation donc d'Yvan Lacroix, qui a renouvelé son invitation tout à l'heure, l'année prochaine, sur le Salon Planète Durable. Je vous laisse avec un petit peu de musique et avec vos antennes respectives. À très bientôt.
Un grand merci et un grand bravo à Frédéric Benoît, qui a coordonné toute cette opération, tout ce plateau de 4 jours en direct, qui a donné beaucoup de sa personne pour se procurer le matériel, pour organiser les plateaux et pour animer cette radio depuis 8 ans maintenant.
Fréquence Terre, la radio nature.